Bonjour et bienvenue à l'avant-dernière session du colloque « Le philosophe et les livres » consacré ce matin aux nouveaux outils pour la recherche avec trois intervenants. Je vais donner tout de suite la parole à Xavier Delaporte, journaliste à France Culture, spécialiste du numérique, et qui va nous présenter une communication intitulée Introduction, outils numériques et recherche. C'est à vous.
Bonjour, merci. Alors, j'ai commencé par vous parler de Flash Forward, qui n'est pas un logiciel comme son nom pourrait l'indiquer. C'est une série américaine dont la première saison vient d'être diffusée en France. C'est la dernière, manifestement, ça n'a eu aucun succès. Pourtant, l'argument est assez malin. Un jour, apparemment, comme les autres, tous les hommes peuplant la planète tombent dans un état d'inconscience qui dure à peu près 2 minutes. C'est 2 minutes 17, je crois exactement, ce qui n'a aucun intérêt en soi. Et tous, ou presque, ont pendant ces 2 minutes une vision. Alors après quelques recoupements, puisque certains se sont vus en train de lire un journal daté, ou alors se trouvaient dans leur vision face à un calendrier, la cellule qui a été chargée d'enquêter sur ce phénomène a fait l'hypothèse que chacun avait vu la situation dans laquelle il serait 6 mois plus tard. Exactement. C'est l'argument de la série avec les enjeux que vous pouvez imaginer. Certains vont désirer cet avenir aperçu, d'autres vont le fuir. Flash Forward, c'est une sorte, donc, un peu en bas de gamme évidemment, une sorte de tragédie à l'échelle de tous les hommes, où les puissants comme les faibles vont se trouver donc menacés par cette question du destin. C'est une sorte de tragédie démocratique, quoi. Mais comme c'est une tragédie contemporaine, elle engage nécessairement la technologie, puisque la cellule d'enquête va émettre une hypothèse. Si l'on pouvait rassembler toutes ces visions, si l'on pouvait recueillir tous les indices qui sont présents dans chacune d'elles et les mettre en lien, eh bien, on pourrait avoir une image assez précise du monde tel qu'il serait dans 6 mois, d'où la création d'un site internet du nom de Mosaïque, qui va accueillir les récits des visions de tous ceux qui veulent bien les déposer. Alors, pour des raisons assez évidentes, les auteurs ne se sont pas attardés ou très peu sur ce site du nom de Mosaïque, mais on peut aisément imaginer et s'amuser à imaginer ce que serait ou ce qu'est Mosaïque. Il repose donc sur un crowdsourcing au sens littéral du terme, puisque c'est la foule, les quidam, qui vont apporter les données. Mais ces données provenant du crowdsourcing sont forcément des données lacunaires, puisque certains n'ont pas intérêt à dire ce qu'ils ont vu. D'autres ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas accès aux technologies, tout simplement. Donc il faudrait compléter ce crowdsourcing par des méthodes d'enquête sur le terrain. Mais pour que les données soient intéressantes, il faudrait les mettre en lien. Pour que l'image se forme, il faudrait créer un outil de mise en réseau des personnes, celles qui s'expriment, mais aussi celles qui sont présentes dans les visions. Il faudrait croiser ces réseaux avec des paramètres biographiques et géographiques. Idéalement, il faudrait que ces données soient visualisables. Qui est avec qui? Et puis, il faudrait aussi relier ces données à des faits. Qui est en train de faire quoi? De voir quoi? Et par ailleurs, il faudrait que ces outils puissent fonctionner dans différentes langues, puisque par définition, tout ça se passe à l'échelle de l'humanité, croiser des informations donc, qui sont exprimées dans des langues différentes. Il faudrait que ces données ne soient pas simplement linguistiques, mais qu'elles soient aussi visuelles. Par exemple, que je puisse identifier quelqu'un que j'ai vu dans une vision, mais que je ne connais pas. Et puis qu'on puisse chercher à l'intérieur de ces données visuelles en fonction de paramètres, c'est-à-dire que je décris quelqu'un et puis il faudrait que le logiciel soit capable de me dire à qui ça correspond, évidemment. Reste une autre question, faut-il que tout le monde ait accès à ces outils développés autour de ces données primitives? Faut-il par exemple que je puisse avoir accès à l'identité de la personne avec laquelle je suis en train de faire l'amour mais que je ne connais pas encore? Ce qui risque de poser évidemment des problèmes. Mosaïque, donc, si l'on résume, ce sont des questions d'accès, de visualisation, de linguistique. Mosaïque, c'est de la cartographie, c'est du recueil de données, c'est de l'archivage, c'est de l'indexation, c'est des moteurs de recherche. Tout ça avec l'objectif de fournir l'image la plus complète du monde tel qu'il sera dans 6 mois. Alors, si je parle de Mosaïque, c'est parce qu'il offre une image fantasmée, et pas forcément désirable d'ailleurs, de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, avec des ambitions évidemment moindres, cela va sans dire. Mais Mosaïque, c'est pousser à l'extrême de la fiction un projet relevant de ce que depuis quelques années on appelle les digital humanities, ou humanité numérique. La traduction n'est pas encore arrêtée, mais en gros on est d'accord pour dire que c'est humanité numérique. c'est-à-dire de la mise au service de la recherche en sciences humaines et sociales, de l'informatique et puis des nouveaux médias, au premier chef Internet. Alors pour s'en convaincre, il suffit de se rendre sur un site qui s'intitule Making Britain et qui est sous-titré Discover How Those Asians Shaped the Nation 1870-1950. L'objectif du projet est simple, il est de faire comprendre comment la nation britannique a été bâtie par les Asiatiques du Sud, essentiellement du sous-continent indien, entre la moitié du 19e et la moitié du 20e. Alors pour ce faire, c'est pas du tout la didactique linéaire qui va être mobilisée, mais des outils informatiques et des outils web. Et le site fonctionne de manière extrêmement simple. Quatre entrées. La première, c'est Locations. Alors, comme vous voyez, je suis censé connaître et maîtriser les outils du numérique et je viens même sans PowerPoint. Mais c'est pour faire un effort d'imagination. Comment ? Alors, oui, on pourrait trouver le site et le mettre en ligne si vous voulez. Enfin, c'est assez simple. Quatre entrées. La première, c'est Locations, les lieux. C'est Making Britain, c'est le site. Alors, c'est l'utilisation là, très classique d'une Google Maps. Une carte de la Grande-Bretagne avec des flèches qui indiquent des lieux, parfois à la rue près, dans le cadre de Londres, où se trouvaient les Indiens essentiellement, ou des associations d'Indiens, ou des endroits où se sont déroulés des événements importants. Donc ça, c'est la première entrée, Locations. La deuxième, c'est Individuals, les individus. Là, vous pouvez, à l'intérieur de cette partie, naviguer de plusieurs manières, soit une liste de noms, et quand vous cliquez dessus, ça vous donne accès à une biographie, un réseau de personnes, les associations auxquelles cette personne participait, les événements dans lesquels elle est impliquée, plus une petite bibliographie. Alors on peut naviguer aussi dans un nuage de tags qui fait ressortir en plus gros les noms qui sont les plus cités, et ça vous permet de visualiser en un seul regard les personnes qui sont les plus importantes ou qui ont les réseaux les plus importants. Il existe par ailleurs une petite galerie de photos d'archives, et je précise que d'ailleurs que cette liste ne contient pas que des gens, pas seulement des gens provenant du sous-continent, mais aussi des Anglais de Grande-Bretagne. Alors troisième entrée, c'est Events, les événements. Là, il s'agit d'une frise élémentaire qui déroule un certain nombre d'événements importants. Pour cette histoire, frise dans laquelle vous pouvez cliquer et puis ça vous donne accès évidemment à un petit récit de ces événements qui vous mettent en lien les protagonistes, dont vous pouvez évidemment retrouver les biographies dans les catégories précédentes. Et puis la dernière entrée, c'est Organizations, les organisations. Là, c'est une liste d'organisations dans laquelle vous pouvez cliquer. Pour chaque organisation, il y a une petite histoire, une localisation qui vous renvoie à la première entrée. Et une liste des personnes impliquées, évidemment, et puis des liens vers d'autres associations de la liste. Alors, tout ça fonctionne avec des liens hypertextes, et il faut préciser que le site est agrémenté d'un petit moteur de recherche interne qui a l'air plus ou moins de peut pas trop mal fonctionner. Alors, on est là donc dans un site qui fonctionne extrêmement simplement. Moi, je ne suis pas développeur, évidemment, mais on voit que ce qui est mobilisé en termes d'outils informatiques est assez rudimentaire. Néanmoins, le propos, il est assez parfaitement servi. Alors, s'il s'agit de mettre en scène les liens entre les gens, que ces gens soient originaires du sous-continent ou des îles britanniques, de mettre en scène les modes d'organisation et la répartition de ces liens sur le territoire britannique, et bien, le contrat est parfaitement rempli. Et ce qui est intéressant ici, c'est l'utilisation d'une navigation qui est propre au web, à savoir le lien hypertexte, pour mettre en scène les réseaux et leur prolongation dans le temps, puisque ça s'étale quasiment sur une centaine d'années, 80 ans. Alors à noter évidemment que pour ceux qui voudraient des outils d'analyse, le site en est presque totalement dépourvu, puisque les bibliographies, mais en revanche, ouais, les bibliographies permettent d'avoir accès à ces outils d'analyse, évidemment. Alors se pose évidemment la question de savoir à qui est destiné un site pareil. Pour y répondre, il faut voir qui en est à l'origine. Il s'agit de The Open University, de l'université ouverte, qui est une université d'enseignement à distance. Making Britain, c'est donc un outil pédagogique. Ça explique à la fois ses qualités, donc la simplicité, la clarté, et le caractère assez ludique presque de sa navigation, le fait de pouvoir circuler de biographie en biographie. C'est Making Britain. Non, je suis vraiment désolé de ne pas avoir fait pour Open, mais j'ai pas eu le temps. Okay. Non, non, c'est pas Lancy, pardon. J'ai pas regardé. Ouais. Okay.
Désolé. Je pense que c'est.
Ouais. C'est quand.
Là, si vous voulez, il y a beaucoup de choses.
Alors, les limites, évidemment, bah, les limites, elles sont assez, assez clairement visibles, elles sont de plusieurs ordres. C'est des limites scientifiques, d'abord, comme je viens de vous le dire, il n'offre pas d'outils d'analyse. C'est des limites aussi dans la collaboration, puisque il faut aller en bas d'un onglet qui est dans la catégorie « About the database », donc à propos de la base de données, pour trouver une proposition de contribution. Mais alors l'adresse, ça c'est important en termes de collaboration, l'adresse mail ne désigne personne en particulier. On ne sait pas à qui on s'adresse. C'est le nom d'un service qui est donné, ce qui est évidemment moyennement incitatif. Et par ailleurs, on n'a absolument aucune idée des processus de validation des contenus apportés. On ne sait pas qui va s'en occuper, qui va les mettre en ligne et en fonction de quels critères. Et puis, limite aussi dans les outils développés pour naviguer et puis pour visualiser. Alors, Making Britain, ce n'est pas à proprement parler donc un site de recherche. Néanmoins, ça me semble aussi intéressant. À partir du moment où un tel contenu est mis en ligne sur le web, il est par définition accessible à tous. Les étudiants de la The Open University, évidemment, mais aussi toute autre personne qui tomberait dessus par les effets de la sérendipité qui est chère aux défenseurs de la navigation hasardeuse et parfois heureuse sur le web. Ce qui pose une question qui dépasse ce site, mais qui se pose à toute initiative relevant de ces Digital Humanities et dont la destination est d'être mise en ligne. C'est-à-dire ce contenu, ces outils, qui peuvent être pédagogiques ou de recherche, étant potentiellement, à partir du moment où ils sont sur le web, accessibles à tous, doivent-ils être pensés en fonction du fait qu'ils sont accessibles à tous ? Les promoteurs les plus enthousiastes des Digital Humanities défendent l'idée qu'elles seraient un moyen de démocratiser la recherche, enfin, vous le savez, de diffuser les contenus et outils largement au-delà des limites de la diffusion traditionnelle de la recherche. C'est évident, mais est-ce que le fait d'être accessible à tous doit créer la nécessité de se rendre accessible à tous? C'est, à mon sens, une des questions que posent ces types de sites. Alors, je voudrais vous parler aussi d'un autre site qui pose d'autres questions et dont l'ambition est absolument autre, mais dont le projet et le fonctionnement donnent une autre idée de l'étendue des possibilités qui sont offertes. Il s'agit alors encore d'un projet britannique, ce qui n'est pas complètement anodin, puisque les chercheurs britanniques sont emparés depuis très longtemps de ces outils. Il émane, pour le coup, de l'Université de Cambridge. C'est indiqué sur la page d'accueil du site. Alors là, vous pouvez vous y rendre assez facilement. Le site s'appelle World Oral Literature. L'idée tient en une ligne, qui est toujours lisible sur la page d'accueil. Il s'agit d'une initiative globale et urgente pour documenter et rendre accessibles les littératures orales menacées de disparaître sans avoir été enregistrées. Ça, c'est la ligne du site. Alors donc c'est un petit texte ensuite explique cette idée. Alors vous connaissez sans doute le chiffre qui est assez terrifiant, il faut le dire, c'est qu'on considère qu'à peu près la moitié des 6000 langues qui sont parlées aujourd'hui auront disparu d'ici la fin du siècle. On estime qu'une cinquantaine de langues parlées aujourd'hui n'ont qu'un seul locuteur. Alors c'est pas la peine de vous détailler évidemment l'intérêt qu'il y aurait à enregistrer, à recouper les enregistrements de ces langues, surtout quand elles, bon, évidemment, elles n'ont pas d'écriture pour la plupart, et qu'elles portent évidemment une littérature, une poésie, des textes, des chants. C'est World Oral Literature. Alors, beaucoup de choses sont intéressantes dans ce projet et disent ce que la logique du World Wide Web et les outils technologiques peuvent apporter à la recherche. Alors, premièrement, il est notable, et c'est intéressant, que ce projet est né du succès, c'est ce qui nous est raconté en tout cas dans la notice, d'un projet anthropologique classique, si j'ose dire. Au départ, il y a l'initiative de deux chercheurs qui, au milieu des années 80, décident d'enregistrer tout ce qu'ils peuvent de la littérature orale des différentes populations du Nord Sabah, c'est en Malaisie, au nord de Bornéo. Face au succès de ce travail, il est décidé de l'étendre et en 2009, au lancement du site, on s'intéresse aux peuples d'Asie du Sud, mais l'idée est de ne pas se limiter à ces zones. Ici, le fait de pouvoir, à moindre frais, créer une plateforme pour recueillir ces enregistrements, le fait de pouvoir les rendre disponibles aussi à moindre frais, c'est-à-dire bon, évidemment de chez lui, tout chercheur, anthropologue, linguiste y a accès en un clic, le fait de pouvoir publiciser aussi ce travail à moindre frais, tout ça étant évidemment permis par l'évolution des technologies du web de ces dernières années, ça permet évidemment un changement d'échelle spectaculaire du projet initial. Deuxièmement, qui va constituer cette collection de littérature orale du monde entier? Alors d'abord, les chercheurs qui font ce travail sur ce terrain. mais aussi potentiellement les chercheurs du monde entier. Le programme fournit des bourses entre 5 000 et 7 000 dollars, parfois jusqu'à 10 000, qu'on peut obtenir en soumettant un projet de collection de littérature orale. Alors sur le site, là pour le coup, on est dans un programme qui est évidemment très très différent de celui qui était du premier site dont je vous ai parlé. Sur le site, il est indiqué très précisément comment doit être formulé ce projet. Et c'est tout à fait sérieux, c'est-à-dire qu'il faut évidemment montrer un intérêt, adresser un CV, des lettres de recommandation, il faut indiquer sa méthodologie, il faut indiquer les techniques de transcription, de traduction, et il faut aussi préciser les questions techniques. Bref, c'est un vrai projet de recherche. L'adresse mail, pour le coup, où on a envoyé est précise, c'est quelqu'un. Et toute la procédure est ensuite expliquée, le passage en revue par un board qui va valider le projet, la distribution de la bourse, l'étalage dans le temps des comptes rendus, l'apport du matériel, etc. Troisième question, celle de l'accessibilité des contenus. Parce qu'à partir du moment où on décide que tout ça n'est pas seulement archivé numériquement, mais mis en ligne, se pose évidemment la question de l'accessibilité. La réponse apportée par le programme est intéressante. Ce sont les communautés elles-mêmes qui vont décider du degré d'accessibilité. Ça peut aller de l'accessibilité de l'ensemble des contenus recueillis jusqu'à un accès nul. Il est possible donc que ce site ne soit qu'un site d'archives auquel donc les gens qui naviguent sur le web n'aient pas accès aux matériaux. Et c'est la communauté qui le décide. La plateforme, dans ces cas-là, en cas d'accès nul, se réduit à un outil d'archivage. Et puis, entre les deux, il y a la possibilité pour les communautés de choisir que les contenus vont accessibles que par des mots de passe, par exemple, qui sont à leur seule destination. Je note au passage que cette question de l'accessibilité, qui peut faire peur évidemment à beaucoup de chercheurs, est réglée ici de cette manière en créant des niveaux d'accès. Mais évidemment, c'est pas le seul site à fonctionner comme ça. Et quand on se déplace sur le web, celui qui se déplace sur le web, disons, s'il peut comprendre que certains contenus soient pas accessibles, ne voit pas bien pourquoi un site est mis en ligne s'il faut entrer un mot de passe dès après la première page. Ce qui arrive assez souvent, hein, c'est-à-dire que vous êtes alléché par une page de présentation d'un contenu et puis il est impossible, il est inaccessible. Et bien, ça pose problème pour le web dit 2.0. Quatrième point, la question du droit de propriété qui s'exerce sur les contenus. Évidemment, c'est une question qui est essentielle, surtout pour des types de contenus comme ça. Alors, c'est une question éminemment critique, elle aussi, bon, à partir du moment où les données brutes de recherche, ici, du son ou de la vidéo, sont accessibles. Alors, le programme déclare qu'il n'y a pas de propriété intellectuelle qui s'exerce sur ces contenus à partir du site. C'est donc le mode de dissémination qui est choisi par les communautés qui va décider du droit de propriété. C'est intéressant parce qu'on est sur un modèle qui n'est pas très loin de celui des Creative Commons. Je parlerai un peu plus tard de Laurence Lessig. Bon, les Creative Commons, c'est l'idée je suppose que vous connaissez un peu. Les Creative Commons, c'est l'idée de dépasser la question du droit d'auteur strict en donnant aux gens qui déposent des contenus sur Internet la possibilité de choisir le mode de dissémination de leur contenu. En gros, je mets un contenu, je peux décider qu'il va être utilisé. Qu'il est sécable, mixable, etc. à l'infini, je peux décider et puis je peux mettre différents degrés. Je peux dire par exemple, je mets ce contenu-là, mais je veux être cité à partir du moment où il est repris, je veux que mon contenu soit insécable, etc. C'est ça les Creative Commons, c'est de ne pas obéir à un droit de propriété défini a priori, mais c'est moi qui définis mon mode de propriété. Cinquièmement, les questions techniques. Alors ça c'est intéressant parce qu'elles concernent ici la question de l'enregistrement des données. Ceux qui vont faire les enregistrements sur le terrain doivent suivre des instructions techniques, comme je disais tout à l'heure, qui sont très précises en termes de matériel, en termes de format d'enregistrement, puisqu'il y a évidemment différents formats d'enregistrement du son, à commencer par MP3, MP4 ou Wave, sur les logiciels de montage qui vont être utilisés pour éditer ces sons, sur la manière de les référencer. Il y a plusieurs manières de référencer les sons, évidemment, et même sur le mode de transfert de ces sons jusqu'au site. Enfin, ça paraît bête, hein, mais enfin, quand on envoie par mail un son à un destinataire, c'est très lourd, ça pollue les boîtes mail, enfin, ça les bloque. Donc du coup, il y a des sites qui s'occupent, je ne sais pas si vous devez connaître, des sites comme YouSendIt, voilà, par lesquels on peut envoyer des gros contenus un peu lourds. C'est-à-dire qu'on les envoie sur un site et puis on envoie au destinataire une adresse à partir de laquelle il peut le télécharger. Bon, voilà. Donc tout ça est expliqué très, très précisément. Tout ça pour dire quoi ? C'est qu'à partir du moment où on se lance dans ce type de projet, les questions techniques doivent être posées. Ben, c'est évident. Elles sont loin d'être secondaire. Ici, ce sera la question des qualités de son, d'enregistrement, de montage, de compression, etc. Et tout ceci, évidemment, a dû faire l'objet de discussions entre les anthropologues porteurs du projet initial et les développeurs du site. Et ça exige en aval une certaine maîtrise technique de la part des chercheurs sur le terrain, ou au moins un travail en commun avec des ingénieurs, que ce soit des ingénieurs du son ici ou des informaticiens. Cette collaboration est évidemment la condition sine qua non de l'existence du projet et de sa pérennité, parce que là, ici, ne sont pas abordées les questions, par exemple, d'archivage et de pérennité des archivages, mais c'est évidemment extrêmement important. C'est qu'à partir du moment où ces sons sont destinés à enregistrer des langues et des littératures orales qui vont mourir, évidemment, il faut imaginer que ça va être périn ensuite, une fois que c'est archivé. Et là, on se pose là, évidemment, ça touche des questions qui sont des questions de serveur, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, où c'est archivé, ça. Tout ça pour dire, enfin, c'est une question évidemment que vous devez connaître très bien, c'est que le web, l'internet, c'est du matériel au bout d'un moment. Ça allait au départ et ça allait à la sortie, c'est-à-dire qu'il faut que tout ça soit dans des endroits, quoi, des lieux. Et ces lieux, c'est des lieux matériels, c'est des centres de données. Ces centres de données, ils sont très très physiques. Ils sont chers à construire, ils sont chers à refroidir parce que ça produit une chaleur absolument incroyable. Donc il faut les refroidir. Et c'est des questions qui sont apparemment comme ça un peu bêtes, mais qui sont rarement posées. C'est que Internet, c'est du matériel, quoi. Et à partir du moment où on décide d'archiver des données qu'on estime très importantes et précieuses, et bien, il faut trouver des modes d'archives, enfin, des modes de matériellement de conservation qui soient périns, et donc il faut se poser la question de savoir où on les met, à qui on les loue, parce que les centres de données, personne ne possède son propre centre de données. Enfin, il y a des gens, enfin, il y a des universités possédant rarement, en généralement pas les centres de données, donc ça veut dire qu'elles louent des espaces à des entreprises privées. Sous quelle forme de contrat, est-ce qu'elle loue un seul endroit ou est-ce qu'elles en louent plusieurs par sécurité. Alors, généralement, les banques, les entreprises privées, quand elles ont des données importantes, louent dans plusieurs endroits, mais ça pose des questions de législation, puisqu'il y a des pays dans lesquels il est possible de demander l'examen de centres de données qui sont hébergés, des pays où c'est impossible. C'est toute la question de Wikileaks, dont je suppose vous êtes... vous connaissez un peu cette histoire de Wikileaks, bon, voilà, bon. Voilà, donc c'est toutes ces questions-là qui sont posées. Voilà. À partir du moment où on décide d'archiver des contenus importants, ces questions-là sont évidemment extrêmement importantes. Après, pour ce qui est de la manière, c'est le sixième point sur ce site, pour ce qui est de la manière dont le site fonctionne, pour celui qui le visite, bon, il n'est pas fondamentalement original, c'est-à-dire que vous avez une Google Map donc, qui montre la localisation des différents projets qui sont finis ou en cours. Il y a un petit onglet collection parce que ce programme veut aussi pouvoir héberger des collections de sons qui sont cédés. Par exemple, là, il y a une collection de sons des années 50, de sons taïwanais, donc qu'on peut écouter. Évidemment, il y a des onglets partenaires. Alors, il y a par exemple une revue latino-américaine dont les numéros sont mis en ligne, des liens vers d'autres projets, des fils d'actualité du champ, évidemment, et puis des liens vers des projets similaires de par le monde où on s'aperçoit qu'évidemment, ils ne sont pas les seuls à fonctionner comme ça. Alors, ensuite, à quel projet le programme a-t-il donné lieu pour le moment? Alors, deux seulement sont terminés. Le site est tout récent. Il a été créé en 2009, donc le temps de donner les bourses, que les gens collectent sur le terrain, amassent les données, etc., ça prend beaucoup de temps. Deux sont terminés, l'un sur des cérémonies chantées en Colombie et l'autre sur le répertoire vocal d'un chanteur au Népal. 13 autres projets sont en cours. La frontière sino-tibétaine, en Mongolie, au Népal, en Inde, etc. Bon. Pour l'instant, le matériel sonore et visuel, parce qu'il y a aussi des vidéos, par exemple des danses qui accompagnent des chants en Mongolie, ce matériel est limité, mais encore une fois, le site a été lancé en 2009. Alors au final, ce site a pour vertu d'être construit pour son objectif, évidemment, collecter des enregistrements, conserver du matériel. Après, on peut évidemment se poser la question de savoir à qui se destine. Sans doute pas à l'internaute. Il n'est en aucun cas pour le moment un outil pédagogique ou même humanitaire, si tant est que la préservation des cultures orales évidemment relève de l'humanitaire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune mise en contexte du travail, aucun travail sur le design ou la mise en valeur des contenus sonores ou vidéo. Par exemple, pour aller voir une vidéo, si vous cliquez sur la vidéo, vous arrivez sur une page complètement blanche avec une vidéo QuickTime classique, vous n'avez rien, vous ne savez pas qui c'est, vous ne savez pas où c'est, etc. Après, les vidéos, par exemple, sur les champs mongoliens, en Mongolie, sont absolument magnifiques, mais vous n'en savez absolument rien. Donc, évidemment, ça n'est absolument pas un outil pédagogique. Donc, le public visé, il semble être double. Celui des communautés, évidemment, qui choisissent ou décident, en tout cas acceptent que soit hébergé leur contenu, disons, leur propre contenu. Et puis, il y a des chercheurs, évidemment, qui voudraient y déposer du contenu. Peut-être aussi, pour les chercheurs, l'idée que ça pourrait permettre de financer la collection de leurs données pour un travail qui n'est pas simplement collecter les données, mais pour eux, qui peut évidemment leur servir après. Et puis aussi, le site est la destination des contributeurs éventuels à ce type de projet, puisqu'il est possible de souscrire directement sur le site, donner un peu d'argent. Mais c'est vrai qu'on est là face à un projet qui est presque l'inverse du projet précédent. Alors il est évidemment totalement arbitraire de parler de deux sites comme cela, parce que des projets de ce type-là, et sans doute beaucoup plus ambitieux et beaucoup mieux réalisés, il en existe des centaines, pour ne pas dire des milliers, et dans toutes les disciplines. Il est important de rappeler aussi que les liens entre l'informatique et la recherche, évidemment, ça paraît bête à dire, mais ne datent pas d'hier. Vous savez mieux que moi, la linguistique a utilisé les outils informatiques depuis extrêmement tôt. Et puis, si on l'élargit aux sciences dures, la physique a été pionnière, évidemment, d'un usage scientifique de l'Internet. Alors, en somme, la multiplication récente de ces projets ne serait due qu'à des améliorations techniques, qu'à sa plus grande facilité à manipuler les outils, aux plus grandes capacités de stockage, et conçu dans un sens un peu étroit, c'est ça que recoupe le terme de Digital Humanities, c'est la masse de tous ces projets et sites qui mobilisent les outils informatiques. Mais il y a une manière plus ambitieuse et sans doute plus fertile de concevoir ces humanités numériques. Et là, je reprends les termes du manifeste pour les Digital Humanities qui a été rédigé par des chercheurs du CNRS et de l'ENS, dont vous avez peut-être lu ou entendu parler. Je vais citer trois points qui constituent le début de leur manifeste. 1. Le tournant numérique pris par la société modifie et interroge les conditions de production et diffusion du savoir. 2. Pour nous, donc pour ces chercheurs qui ont rédigé le manifeste, les Digital Humanities concernent l'ensemble des sciences humaines et sociales, des arts et des lettres. Les Digital Humanities ne font pas table rase du passé, elles s'appuient au contraire sur l'ensemble des paradigmes, savoir-faire et connaissances propres à ces disciplines, tout en mobilisant les outils et les perspectives singulières du champ numérique. 3. Les Digital Humanities désignent une transdiscipline porteuse des méthodes, des dispositifs et des perspectives heuristiques liées au numérique dans le domaine des sciences humaines et sociales. Et suivent des constats et une série d'orientations qui méritent d'être lues si vous ne l'avez pas déjà fait. On voit bien que, conçus comme tels, les Digital Humanities ne sont pas, comme je disais tout à l'heure, simplement l'accumulation de projets qui allient l'informatique aux sciences sociales, mais une manière de faire de la recherche qui traverserait les disciplines. Et là, se pose toute une série de questions, évidemment, qui sont extrêmement nombreuses. Je voudrais juste en soumettre quelques-unes. D'abord, j'imagine que c'est des questions que vous avez abordées ces deux jours et que vous allez continuer à aborder aujourd'hui, mais évidemment, la question du travail en commun du chercheur et de l'informaticien. Et du développeur. Je note que nous, dans le journalisme, la même question se pose. Alors, ça ne va pas de soi, mais c'est de plus en plus nécessaire. Et cette collaboration, c'est évidemment une question humaine, un travail, une interaction humaine. C'est une question de formation, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un terrain de compréhension. C'est aussi une question de moyens, c'est une question de moyens logistiques, etc. Bon, ça, on l'imagine très bien. Deuxièmement, la question des outils à développer. Un projet de recherche numérique, ça donne lieu à une mobilisation d'outils informatiques, d'indexation, de visualisation, de recherche, etc. Alors, ces outils peuvent être standards ou aisément disponibles. Parfois, il faut les imaginer et les créer. La logique voudrait que ces outils soient partagés par tous. Ce qui nécessite qu'ils soient enregistrés quelque part et que leur code, la programmation elle-même, soit mise à disposition pour ceux qui voudraient les modifier, les adapter, les améliorer. En gros, il faudrait travailler en open source. Voilà. Il faudrait créer des bases de données, des outils à disposition, des forums d'utilisateurs, comme il en existe pour les logiciels libres. Pour citer un exemple, vous décidez de travailler avec un logiciel de montage de son comme Audacity, qui est un logiciel libre. Au bout de deux minutes, vous vous heurtez à des difficultés, vous vous rendez sur les forums d'utilisateurs qui vous expliquent comment fonctionner. Il faudrait que ça fonctionne exactement la même manière pour des outils de recherche. Bon. Troisième question, la question des bases de données. Une grande partie des digital humanities, des humanités numériques, c'est la création et l'exploitation des bases de données. Bon. Qu'elles soient textuelles, photographiques, sonores ou autres. Alors, plusieurs sous-questions. D'abord, évidemment, qui constitue ces bases de données ? C'est un des enjeux, bon, ça vous le savez très bien, entre, du débat entre la BNF et Google. Deuxièmement, à qui elles sont accessibles et sous quelles conditions. Et puis aussi une question technique, mais qui est essentielle, sous quel format les données sont stockées. Ça paraît complètement bête, mais numériser des textes, c'est parfait, c'est super. Mais s'il existe 1000 manières de numériser un texte de théâtre, par exemple, un outil qui va permettre de travailler dans un des formats de numérisation ne permettra pas de travailler dans un autre format de numérisation. Donc votre outil, il est par définition complètement circonscrit à un format de numérisation. Bon, ça paraît complètement bête, mais ça veut dire qu'il faut se mettre d'accord sur la manière dont on va numériser, par exemple, un texte de théâtre. C'est-à-dire, quel est le code pour, je sais pas, qui parle, à quel moment, voilà, comment on fait avec pour les didascalies, etc. Bon, il y a des gens qui travaillent sur la question de mise en commun, disons, de formats qui permettent à des outils de naviguer du coup, dans toutes les bases de données. La question de la conservation, j'en ai parlé tout à l'heure, sur la question de où on place ces données, c'est absolument essentiel. Par exemple, la question de chez qui on se fait héberger, ça paraît tout bête, mais c'est essentiel. Nous, à France Culture, par exemple, on a ouvert un nouveau site, là, et le contrat qui a été passé manifestement entre la chaîne et l'hébergeur est pourri. Ce qui fait que toute modification qui doit être faite prend des heures, des jours, enfin, etc. Et notre site plante tout le temps à cause du rapport entre l'hébergeur et le... Et ça veut dire aussi qu'on a perdu des contenus sonores dans le transfert qui a été fait. Ça. Donc, bon, c'est des questions qui sont absolument essentielles. Et puis, enfin, la question de la diffusion de la recherche, car, bon, évidemment, le numérique, ça offre des outils, on vient d'en parler, mais il offre évidemment des outils de diffusion, quoi. Bon. Alors les revues numériques, bon, mais c'est aussi des blogs et des carnets de chercheurs. Alors on sait que bon, vous connaissez les gros projets qui ont abouti, bon, je sais pas, comme Cairn ou revue.org, mais évidemment il y a sans doute du travail à faire dans ce sens-là. Alors évidemment tout le monde est conscient que toutes ces questions n'engagent pas seulement la bonne volonté d'individus, mais aussi bon, évidemment, des questions de politique scientifique, quoi. Que celle-ci soit conçue aussi en termes, ça c'est d'autres questions qui se posent, mais qui sont extrêmement intéressantes en termes d'évaluation, d'organisation, de financement. C'est ce qu'on commence à faire, je crois, le projet TGE Adonis. Et pour terminer, il est intéressant de s'apesantir quelques instants sur une idée qui est défendue par les promoteurs les plus enthousiastes des humanités numériques. Ils plaident pour la diffusion d'une culture numérique, qui passerait par l'instauration de cours d'informatique, par exemple, dans les cursus des chercheurs. Ils plaident pour l'enseignement aux chercheurs d'une culture informatique, donc qui puisse aller jusqu'au rudiment de la programmation. Alors, ça pourrait paraître excessif que les chercheurs soient obligés de passer par l'apprentissage quasiment de la programmation, en tout cas des rudiments de la programmation. Ça pourrait passer pour excessif ou pire pour une question complètement annexe. En réalité, il me semble que c'est au cœur du problème, et particulièrement pour les chercheurs en sciences sociales, et pas uniquement pour des raisons scientifiques. Et là, il faut reprendre le très beau texte de Laurence Lessig. J'imagine donc Laurence Lessig, c'est celui qui dirige aujourd'hui la Fondation des Creative Commons. C'est un chercheur en droit, enfin c'est un juriste de Stanford, de l'université de Stanford en Californie. Et il y a 10 ans, Laurence Lessig a écrit un très beau texte qui est intitulé « Code is law », le code, c'est la loi. Je voudrais juste vous en citer les premiers paragraphes. Lessig écrit « À chaque époque, son institution de contrôle, sa menace pour les libertés. Nos pères fondateurs craignaient la puissance émergente du gouvernement fédéral, la constitution américaine fut écrite pour répondre à ces craintes. John Stuart Mill s'inquiétait du contrôle par les normes sociales dans l'Angleterre du XIXe siècle. Il écrivit son livre « De la liberté » en réaction à ce contrôle. Au XXe siècle, de nombreux progressistes se sont émus des injustices du marché. En réponse, furent élaborées les réformes du marché et filets de sécurité. Nous sommes à l'âge du cyberespace, continue Lessig. Il possède lui aussi son propre régulateur qui lui aussi menace la liberté. Mais qu'il s'agisse d'une autorisation qu'il nous concède ou d'une conquête qu'on lui arrache, nous sommes tellement obnubilés par l'idée que la liberté est intimement liée à celle du gouvernement que nous ne voyons pas la régulation qui s'opère dans ce nouvel espace, ni la menace qu'elle fait peser sur les libertés. Ce régulateur, c'est le code, le logiciel et le matériel qui font du cyberespace ce qu'il est, ce code ou cette architecture qui définit la manière dont nous vivons le cyberespace, il détermine s'il est facile ou non de protéger sa vie privée ou de censurer la parole. Il détermine si l'accès à l'information est global ou sécurisé. Il a un impact sur qui peut voir quoi ou sur qui est surveillé. Lorsqu'on commence à comprendre la nature de ce code, on se rend compte que d'une myriade de manières, le code du cyberespace régule. Alors évidemment, il y aurait beaucoup à dire sur l'arrière-fond politique de ce texte, mais l'idée centrale est assez forte et appuierait la nécessité qu'il y a pour les chercheurs en sciences sociales en particulier à ne pas ignorer la logique interne des machines et des réseaux, qui sont non seulement nos outils de travail, mais aussi des outils de diffusion de notre travail, qui sont aussi le lieu d'une partie de notre sociabilité, d'une partie de notre accès au savoir, à l'information et à bien d'autres choses encore. Alors bien sûr, les langages informatiques sont extrêmement nombreux. Bien sûr, notre vie dépasse celle que nous avons dans le numérique. Néanmoins, plaide en faveur de ceux qui défendent l'enseignement d'une culture informatique aux chercheurs et particulièrement aux chercheurs en sciences sociales, plaide en leur faveur donc l'idée qu'il est compliqué de comprendre une société sans en saisir les logiques profondes. Et aujourd'hui, et sans doute plus encore à l'avenir, informatique et numérique constituent une ligne forte de ces logiques profondes. Merci.
Bien, merci pour cette communication. Donc, il portait essentiellement sur deux exemples, enfin à partir de deux exemples. Donc, l'un assez fictionnel, je dirais, sur la série Flash Forward.